Alors, pour ouvrir le bal, Anne Crémieux est maîtresse de conférence en études anglophones à l'Université de Paris-Nanterre. Je la remercie personnellement, chaleureusement, d'être venue ici et d'ouvrir cette journée. Elle a publié notamment « Les cinéastes noirs américains et le rêve hollywoodien » chez l'Harmattan en 2004, dirigé chez Cinémaction un numéro spécial sur les minorités dans le cinéma américain. Ce qui est aussi intéressant, on parlait d'intersectionnalité, elle a dirigé un numéro sur homosexualité en Afrique chez l'Harmattan en 2014. Et plus récemment, elle a contribué à un chapitre sur les noirs queers dans le cinéma américain pour African American Through Black Lives Consciousness chez Wayne University Press en 2018. Et surtout aussi, elle co-anime le CICLAO, groupe de recherche sur le cinéma classique hollywoodien qui nous est très cher. Donc Anne va nous parler de Sense8, le militantisme nourri à la théorie queer.
Est-ce que vous connaissez Sense8? Oui. Vous avez vu Sense8? Très bien. Bon, je résumerai quand même un tout petit peu pour les autres, mais c'est un peu compliqué à résumer. Donc, c'est une série sur Netflix. C'est une série qui a eu un statut culte quasiment avant de sa sortie, parce qu'elle est réalisée par les Wachowski, deux sœurs trans, dont l'une a fait sa transition pendant le tournage de la série. Et la série donne un des rôles principaux à une femme trans, qu'on connaît Naomi Marx dans la série. Et pour ça, c'est pas la première. Heureusement, ce sera pas non plus la dernière. Mais le fait que ça soit réalisé par des femmes trans, ça a fait que la série était très attendue, surtout qu'elles sont extrêmement connues d'avant, puisque elles sont évidemment les auteurs de Matrix, qui est elle-même une série de films. Donc, pourquoi je fais cette présentation? Parce que je pense que la série applique les théories queer développées depuis 30 ans dans un scénario de science-fiction et d'ailleurs qui fait que beaucoup de gens relisent Matrix différemment après Sense8. Matrix avait pour héros un couple de deux, qu'aujourd'hui on voit comme deux androgynes, dont on admirait la malléabilité corporelle, alors qu'il défie les lois de la gravité. Bon, j'imagine que vous avez tous vu Matrix, très connu pour ses effets spéciaux. Dans Sense8, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, on a donc 8 héros de sexualité, d'ethnicité, de nationalité diverses, qui font partie d'un cluster. Donc, je ne sais pas comment on dit en français. Groupe, ça a un nom hein, parce que c'est un terme religieux, un cluster de homosensorium. Si vous ne connaissez pas les homosensorium hein, comme race d'être, c'est parce que ça n'existe pas. Ce sont des humains interconnectés par leur super pouvoir psychique et qui donc vivent par empathie de manière littérale les affects des autres sept membres de leur cluster. Donc il et elle communiquent par télépathie, alors que chacun ressent tout ce que les autres ressentent simultanément. Ils sont traqués par des hommes qui ressemblent au Men in Black de Matrix, hein, il y a aussi le film Men in Black, et ces hommes représentent un pouvoir pas incertain qui a peur du pouvoir des homosensoriums et qui sont des homo sapiens, a priori. Les 8 personnages découvrent, lors de la première saison, ce qu'ils sont, qu'ils sont nés au même instant à des endroits différents du globe, qu'ils sont connectés tels qu'ils ressentent ce que les autres ressentent et qu'ils peuvent agir pour les autres à distance. Le lien fait entre cette condition cachée, d'abord cachée à eux-mêmes, puis qu'ils doivent cacher aux autres, incomprise des homo sapiens et niée par peur de leur supériorité, le lien entre ces pouvoirs, cette condition plutôt, et la non-conformité sexuelle et de genre est parfaitement explicite dans la série. C'est le fil rouge de la série. Et deux des personnages de la série, Naomi et Lito, sont respectivement trans-lesbiennes et cisgenres gays. Cisgenre qui n'est pas trans, qui est né du sexe de son genre. Donc, par sa construction, la série questionne la performance du genre, d'abord quand les personnes combattent les uns pour les autres, parce que c'est leur corps qui vient remplacer le corps de quelqu'un qui, régulièrement, est d'un autre sexe, d'un autre genre. Et de manière plus générale, quand ils se substituent les uns aux autres. Donc là, ceux qui connaissent bien, vous avez Sun qui, tout d'un coup, apparaît pour prendre la place de Caféus et se battre. Et Lito qui vient crier sur le futur mari de Kala. Et a priori, donc lui ne voit pas Lito, mais il est là comme Kala. Donc voilà, et vous voyez que à partir de, en fait, si vous connaissez la série par cœur, j'aurais commencé au moment où il commence à parler les uns pour les autres, et où c'est la parole militante de Nomi qui est posée comme la référence morale, qui change le rythme de la séquence, alors que la carrière de Lito est en train de basculer à cause de son coming out. Donc, dans cette séquence, on a les femmes qui parlent pour les hommes, les trans pour les cis, les asiatiques pour les noirs. La question de l'altérité de race est associée à celle de sexualité. Et la question de qui sont vraiment les sensoriums renvoie directement à la question de qui sont vraiment les individus homo sapiens et de l'égalité dans la différence. Et ces individus, quels qu'ils soient. Donc, la situation identitaire des différents sensei est présentée comme identique. Et en quête d'une, donc y compris les blancs, hétéros, cis, etc., mais qui ont un passé, qui ont une histoire, qui viennent d'une certaine classe sociale, etc., et qui revendiquent l'individualité hors des catégories auxquelles chacun néanmoins appartient sans honte, parce qu'évidemment c'est quand même le centre du message de cette séquence. Donc la série, elle illustre une pensée intersectionnelle dont on parlait juste avant, qui déconstruit les étiquettes identitaires en listant tout ce qui définit les individus comme ce que l'on a perdu, d'où on vient, sans nier les spécificités. Le rapprochement des jugements et des ressentis des sensei leur donne la capacité de parler les uns pour les autres sans se substituer les uns aux autres. Et ça, dans tout ce qui est représentation audiovisuelle, c'est très important, parce que c'est toute une question de qui a le droit de parler pour qui, etc. Donc, eux, ils ont une sensibilité différente, communautaire, métaphore idéalisée de la sensibilité queer au regard de la pensée straight. Bien entendu, tous les sensei, loin de là, ne sont pas LGBT, mais néanmoins, comme on a vu, Lito et Nomi le sont, et chacun est en couple, alors que tous les autres sensei ne sont pas forcément en couple. Qui plus est, la série, par son intrigue, remet en question l'existence même de catégories, puisque, du fait de leur télépathie, les personnes ressentent les sentiments des autres, y compris dans leur intimité, ce qui fait que tout le monde couche avec tout le monde, une raison de plus de regarder cette série. Pour le public, en théorie, dans l'intrigue, cette connexion est mentale, mais pour nous, en tant que spectateurs, elle est physique aussi. Et donc, dans ces scènes, ça devient évident que les catégories ne tiennent plus d'un point de vue purement sexuel, même si elles se maintiennent d'un point de vue social, communautaire, identitaire. La série milite donc à la fois pour la liberté sexuelle des unes et des autres et pour un pansexualisme esthétique, si on admet qu'on visualise quelque chose qui n'a pas vraiment lieu, mais aussi, de manière générale, pour dépasser les catégories préétablies. Alors, les sensitifs, ils se soutiennent dans leur combat en se substituant les uns aux autres. Donc là, tout le monde vient à l'aide. Donc Sun va se substituer dans son combat physiquement, mais aussi tout le monde vient à son aide psychologiquement au moment où elle va être condamnée pour aller en prison. On l'a vu dans l'extrait. Donc ici, il y a vraiment un message militant fort que la liberté ne vient au groupe que si chacun est libre. Donc tous les personnages du cluster partagent le vécu des autres et donc ils vont par exemple aider Nomi à s'échapper. Là vous voyez c'est Will qui a pris la place de Nomi sur la civière et qui va lui permettre de s'échapper quand elle manque de se faire lobotomiser par sa mère. Donc c'est quand même des situations de discrimination extrême, vitale, dans lesquels sont pris, de même qu'en tant qu'homo sensorium, en tant qu'homo sapiens, ils sont aussi dans des situations extrêmes, vitales. Donc, en particulier, il va y avoir ce moment que tout le monde connaît, même quand on n'a pas vu la série, où ils participent ensemble à la Gay Pride, où Lito se libère dans une scène qui illustre la révolution queer comme libératrice, pas seulement pour les queers, mais pour tous, puisque c'est aussi Will, là c'est Will qui embrasse Lito. Will est hétéro, mais il a fait un rêve où il l'embrassait aussi alors qu'il est au gym, en fait. C'est très homo-érotique et homo tout court. Mais il n'est jamais son hétérosexualité n'est remise en cause, par ailleurs, dans la série. Et cette théorie militante queer, elle vient, bien sûr, d'un mouvement plus profond, le mouvement des droits civiques, avec Martin Luther King, qui développe cette pensée, en particulier juste avant d'être assassiné, et le black feminism en général. Alors, un autre concept queer fondateur que Sense8 met en scène de manière centrale, c'est celui de l'épistémologie du placard de Sedgwick. Ce placard dont Lito est sorti de force et qui devient une partie très importante de l'intrigue. Le personnage homosexuel de la série est choisi pour être un acteur au Mexique, pour le mettre dans une situation culturelle spécifique qui fait que toute sa carrière est tributaire de sa performance de l'hétérosexualité obligatoire que la série dénonce. Ce placard est mis en parallèle avec celui des homosensoriums qui ne peuvent pas se faire connaître parce qu'ils sont traqués pour être exterminés. L'invisibilité des homosensoriums est directement rapprochée de l'invisibilité des trans de manière parfaitement militante puisqu'il est dit que les corps trans se confondent avec les corps cis. C'est le parallèle qui est fait, ce qui va à l'encontre des idées reçues, notamment pour les femmes trans et notamment en matière de représentation à l'écran, où les trans sont trop souvent incarnés par des corps cis, niant aux trans l'occasion de se voir beaux, riches et célèbres, comme moi je me vois tous les jours à la télé, du simple fait de l'embauche de leurs semblables en tant que stars. Donc les discriminations donc extrêmes, comme on a vu tout à l'heure, dont Nomi et Lito sont victimes, tout en étant quand même fiers de leurs identités, sont le miroir des conditions des Sense8. On voit que la discrimination ou la limitation des individus à moins que ce qu'ils peuvent devenir est partagée par tous les Sense8 et donc par tous les êtres humains, quelles que soient leurs conditions spécifiques d'existence. Donc ça, c'est une scène du premier épisode de la saison 2, qui est le Christmas Special, qui dure 2 heures. Dans cette séquence, vous avez Kala, qui est une jeune indienne qui s'apprête à épouser un homme de bonne famille, qu'elle aime bien, et qu'il a été choisi par ses parents. En fait, elle vient d'apprendre par son mari qu'il avait dit à sa mère qu'elle était vierge. Ça l'énerve. Il y a beaucoup d'autres moments dans la série où sont mis en parallèle transphobie, racisme, sexisme, homophobie, classisme, tiers-mondisme, antisémitisme et toute forme d'ostracisation dans un appel humaniste à l'amour pansexuel. Là, on a vu 2 exemples, mais il y a d'autres scènes de Sense8 où on pourrait montrer ces liens, parfois vraiment directs, parfois plus subtils. Ici, c'est vraiment direct. Évidemment, le thème de la série s'y prête, mais plus exactement, à mon avis, la série a été construite, entre autres, pour cela. Et d'ailleurs, le co-créateur de la série, Michael Straczynski, explique que la série défend l'idée que la tyrannie gagne quand elle réussit à nous diviser selon les lignes du genre, du parti ou d'autres choses. Donc c'était bien l'intention des gens qui ont écrit cette série que de make that point. C'est d'ailleurs ce qu'on leur a reproché aussi, parce que ça finit par être un peu lourd, évidemment, comme vous pouvez imaginer. Mais bon, moi, je pense que ça, c'est un équilibre. Hein. Il y a aussi tout le reste de la production audiovisuelle. Donc, voilà. La télépathie des personnages, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, métaphorise comment nos expériences multiples de l'ostracisation doivent nous permettre de faire le lien entre les différentes formes de discrimination et en cela élargir la définition même du mot queer qui, en théorie, est sans catégorie de limite. C'est pour ça qu'on a inventé ce mot queer, pour inclure toutes les formes de différence qui finalement, où est-ce que s'arrête cette inclusion? Dans la série Sense8, nulle part, elle ne s'arrête pas.
Merci beaucoup Anne, et aussi pour cet humour.